Vous m'entendez? Tournez avec nous, s'il vous plaît, dans la parole de Dieu, dans Matthieu, chapitre 21. Matthieu, chapitre 21. Bible avec vous, vous aimeriez suivre pendant la prédication. On va lire un passage, juste lever la main, s'il vous plaît. Les placeurs vont vous apporter la parole de Dieu, tournez au chapitre 21. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait besoin d'avoir une Bible ce matin? Ça va nous faire plaisir de vous apporter cela. Merci beaucoup pour le chant, Daisy, les filles. Ouf! Hein? Wow! C'est exactement pour ça qu'on est là. Exactement pour ça. Et j'étais déjà parti au ciel. Merci. Juste avant de donner la parole à mon épouse qui va nous lire la parole de Dieu, je veux renchérir l'annonce qui a été faite tout à l'heure par M. Saint-Pierre, par Robert, concernant les cours bibliques qui vont reprendre. Donc, dimanche prochain, c'est notre dernier dimanche pour l'école du dimanche pour les enfants, les cours bibliques pour adultes, de 9h à 10h. Les deux dimanches suivants, soit le 27 décembre et le 3 janvier, il va y avoir seulement un service à 10h15. Mais le 10 janvier, nous reprenons les cours et nous croyons fermement que Dieu nous transforme par son esprit et que l'outil principal dont l'Esprit de Dieu se sert pour nous transformer, c'est la parole de Dieu. Et c'est pour ça que nous consacrons énormément d'énergie à mettre sur pied une belle brochette de cours pour vous aider à avancer, à grandir dans votre foi. Je vais juste vous les mentionner rapidement ce matin, mais ayez ces discussions cette semaine dans les petits groupes, discutez avec les amis, conseillez-vous mutuellement, cherchez la face de Dieu, pour savoir quel cours Dieu vous invite à prendre en janvier, le 10 janvier. Alexandre Marquis, qui dirige la louange régulièrement, qui dirigeait ce matin, va continuer le survol de l'Ancien Testament pour la session donc hiver qui va jusqu'à la fin avril, donc avec le groupe de collège et carrière. Notre frère Gilles Fortin, peut-être les frères, vous pouvez juste vous lever. Alex, évidemment, est connu comme Barabbas en passion, mais quand même, si tu peux te lever. Puis Gilles Fortin, est-ce que Gilles est là ce matin? Gilles va continuer le cours avec les nouveaux croyants. Donc, c'est vraiment les fondements de la foi. On vous en parle plus dans les prochaines semaines. Ça va tout être dans le feuillet dimanche prochain. Alors, vous pourrez voir ça. Et vos dirigeants de petits groupes ont les résumés. Jean-Paul va donner un cours. Je ne mentionne pas les adjoints, les gens qui vont aider pour les cours, tout ça. Là. Jean-Paul va donner un cours sur l'Église de l'espoir. Donc, si vous êtes en cheminement, vous êtes en train de considérer de vous joindre véritablement à cette assemblée, c'est le cours à suivre où on présente la vision de l'Église, où est-ce qu'on s'en va, ce que nous croyons. C'est fondamental de saisir ces choses. L'engagement que vous prenez envers l'Église et l'engagement que l'Église prend envers vous lorsque vous décidez de vous joindre à cette assemblée, c'est le cours L'Église de l'espoir. Robert Saint-Pierre va être disponible encore pour donner des cours de préparation au baptême. Alors, si vous l'avez à cœur, le Seigneur vous a préparé à ça. Vous êtes prêt à faire votre coming out, comme on dit. Il y en a qui le font pour toutes sortes de causes. On devrait le faire pour Jésus-Christ en passant par les eaux du baptême. Et donc, si vous êtes prêt, le Seigneur vous a préparé, vous êtes prêt à vous afficher pour Christ, allez voir Robert, qui dirigeait le repas du Seigneur ce matin, et il va être disponible pour donner un cours de baptême. Il y a le cours avec Luc Penton, Michel Famy, Stéphane Rondeau, qu'on annonce depuis plusieurs semaines, Vie financière selon les Écritures, un cours de 12 semaines, où on voit une théologie biblique, comment Dieu voit les sous, mais on voit aussi de manière très concrète et très pratique, on apprend comment sortir des dettes, comment mettre de l'ordre dans nos finances, comment être des bons gestionnaires selon Dieu avec nos sous. Donc, c'est un peu un volet très pratique à la série qu'on a faite sur les biens matériels et les finances. Je vais personnellement donner le cours ici dans l'auditorium à la prochaine session, un cours sur l'adoration. J'ai appelé ça l'adoration à la lumière de toute la Bible. Vous savez, il y a toutes sortes d'opinions sur l'adoration. Bien des gens ont des choses à dire sur comment nous devrions adorer Dieu aujourd'hui. Et peut-être que c'est un bon moment pour aller voir ce que Dieu en pense. Et donc, ce qu'on va faire, ça va vraiment être une théologie biblique de l'adoration. On va survoler toutes les Écritures à partir de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et nous allons voir ensemble ce que Dieu recherche comme adorateur. Qu'est-ce que c'est être un adorateur de Dieu dans la Genèse, dans le Pentateuque, dans les prophètes. Et lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament avec ce que Jésus enseigne sur l'adoration, et il va y avoir un livre à l'appui pour ça, ceux qui veulent faire des lectures complémentaires. Évidemment, on a le groupe de prière des dames avec Sylvie Hamel qui va poursuivre, et on est à la recherche d'un responsable pour un groupe de prière pour les hommes. Alors ça, c'est des cours qui vont être disponibles, ou des groupes de prière qui vont être disponibles à compter du 10 janvier. Priez à ce sujet-là, consultez le Seigneur à savoir où est-ce qu'il veut que vous soyez présents à compter du 10 janvier. Maintenant, on va écouter ensemble la lecture de la parole de Dieu dans Matthieu 21 et nous allons commencer au verset 12. Je vais laisser la parole à mon épouse.
Matthieu 21, 12. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, « Il est écrit, « Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites, et des enfants qui criaient dans le temple, « Hosanna au fils de David !» Ils lui dirent, « Entends-tu ce qu'ils disent ?»« Oui, leur répond Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles ?»« Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle ?» Et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit, « Que jamais fruit ne naisse de toi. » Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, « Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? » Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité. » Si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez.
Amen. C'était la parole de Dieu. On va se courber ensemble dans un mot de prière. Seigneur Jésus, merci pour ce temps de louange. Merci pour ce repas. La Sainte Cène, Seigneur, que tu nous as laissé. Merci, Seigneur, d'avoir encore une fois bouleversé mon cœur en me rappelant ton amour pour moi, Seigneur. Comme notre frère Robert le mentionnait, Seigneur, tu as éloigné de moi mes fautes, mes péchés, mes secrets, Seigneur, tout ce qui me fait honte. Seigneur, nul n'est comparable à toi. Seigneur Jésus, nous approchons de la fête de Noël, annonçant qu'un jour, un Sauveur est venu. Venu pour enlever les péchés de son peuple. Je veux te demander, Père, de parler à nos cœurs ce matin par ta parole. Aide-nous, Seigneur, à comprendre ces paroles qui sont inspirées par toi et qui doivent bouleverser nos cœurs et nos vies. Et viens dans ta grâce nous saisir par ton Esprit Saint. Seigneur, tu sais, nous avons le cœur dur. Notre cœur refroidit si vite, Seigneur. Sans toi, nous errerions, Seigneur, loin de Dieu. Que ton esprit nous saisisse ce matin, qu'il nous parle, que ta parole soit comme un miroir devant nos cœurs. Viens, Seigneur, saisis-nous. Et que ceux qui doivent repartir d'ici, le cœur repentant, le cœur bouleversé, reparte, Seigneur, repentant et libéré. Et que ceux, Seigneur, qui doivent repartir d'ici, encouragés, soient encouragés, Seigneur. Que ceux qui doutent de ta grâce et de ta bonté soient saisis par cette promesse de ta parole. Et viens toucher nos cœurs, Seigneur. Père, je te prie spécialement pour moi, parce que je suis indigne de prêcher ta parole. Je ne suis pas comme ces grands prophètes de l'Ancien Testament, Seigneur, consacrés entièrement. Non, je suis un pécheur. Un homme pauvre spirituellement. Et si je suis riche, c'est de Jésus-Christ dont je suis riche, Seigneur. Soit avec ma bouche, soit avec mon cœur. Et que Christ brille, Seigneur, à travers cette prédication. Nul autre que toi, Jésus. Amen. Amen. Je vous lis deux versets tirés de l'Évangile de Jean, parce qu'à mon avis, ils nous permettent de situer le passage que nous regardons ensemble ce matin. C'est dans Jean 15, je vous les lis très rapidement. C'est Jésus qui parle ici. Soyez attentifs, ça va vous aider à saisir ce que Jésus fait dans ce miracle étrange avec ce figuier. Jésus dit dans Jean 15, verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Jésus-Christ est venu sur la terre afin de donner à son Père céleste un peuple qui porte du fruit en abondance pour la gloire de Dieu. Vous savez, lorsqu'on lit les Saintes Écritures et qu'on apprend à connaître Jésus-Christ, il y aurait bien des manières de résumer le ministère de Jésus. Pourquoi Jésus est venu sur la terre? On pourrait dire « Jésus est venu sur la terre pour mourir pour nos péchés », ce serait juste. Il est venu pour nous sauver, évidemment. Il est venu pour montrer aux hommes l'amour de Dieu, c'est encore vrai. Il est venu révéler le Père, qui est Dieu. Celui qui a vu Jésus a vu le Père, c'est vrai encore. Et il y aurait bien des manières de résumer le ministère de Jésus-Christ sur la terre. Une manière de le résumer, c'est ainsi. Jésus-Christ est venu sur terre afin de donner à son Père céleste, un peuple qui porte du fruit en abondance pour la gloire de Dieu. Alors, j'ai une question pour vous ce matin. Est-ce que vous trouvez que votre vie chrétienne manque de fruits, de richesse, de punch, de vie? Et plus encore, est-ce que vous allez jusqu'à vous demander si Dieu veut vraiment changer votre vie pour la rendre fructueuse? Est-ce qu'à travers les années, il y a de l'incrédulité, des déceptions, de la tristesse qui s'est installée en vous? Et dans le fond de votre cœur, si vous étiez honnête avec vous-même et avec Dieu, vous doutez que Dieu désire vraiment amener dans votre vie des fruits à sa gloire. Que Dieu désire vraiment vous transformer. La réponse à cette question se trouve dans le passage que nous regardons ce matin. La réponse est là, devant vos yeux, dans ce passage de Matthieu 21. Alors que Jésus prononce une malédiction sur un figuier qui avait des feuilles et qui ne portait pas de fruits, Dieu nous révèle son cœur pour son Église et pour chacun d'entre nous. Voyez-vous, bien souvent sur un figuier, les fruits vont précéder les feuilles. Et lorsqu'on voit un figuier qui est en feuilles, qui a des feuilles, on est en droit de présumer saison ou hors saison que ce figuier-là devrait avoir des fruits. Maintenant, le figuier duquel Jésus va s'approcher avait des feuilles qui annonçaient des fruits, mais il n'avait pas de fruits. Jésus-Christ est venu il y a 2000 ans pour prononcer un jugement sur un arbre qui ne donnait pas les fruits que Dieu voulait. Cet arbre, ce n'était pas le figuier, évidemment, Mais le figuier était une image qui représentait l'institution religieuse de l'époque, mais aussi tous ceux et celles en Israël qui se disaient fils d'Abraham, descendants d'Abraham, mais qui ne voulaient pas marcher avec la foi d'Abraham. Pour comprendre ces choses, il faut remonter au temps de l'Ancien Testament, il faut retourner dans l'Ancien Testament et comprendre que Dieu s'était choisi un peuple. Dieu s'était désigné des gens comme vous et moi, des êtres humains. Et il les avait choisis, et il les avait fait sortir d'Égypte, là où ils étaient esclaves. Et cet esclavage représentait plus qu'un esclavage physique. C'était l'esclavage qui est le lot de tous les hommes qui ne sont pas à Dieu. Mais Dieu s'était choisi un peuple qui était pris sous l'esclavage en Égypte et il les a fait sortir, il les a libérés de cet esclavage. Un peuple qu'il avait sauvé. Il les a conduits au désert pour leur parler seul à seul, comme un amoureux va prendre à l'écart une femme dont il veut faire la conquête. Et il a parlé au cœur de ce peuple-là, il les a regardés droit dans les yeux et il s'est adressé à eux, parlé à leur cœur et il leur a dit « Voici, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu et vous porterez mon nom. Vous porterez mon nom devant toutes les nations de la terre et je vous bénirai et toutes les nations de la terre sauront que l'Éternel est vivant parce que je vous ai choisi et vous m'avez choisi et je suis votre Dieu et vous êtes mon peuple. Et je ferai déverser sur vous mes bénédictions et mes grâces, afin que toute la terre sache que l'Éternel est vivant. » Alors Dieu a donné une maison de Dieu à ce peuple, le temple. Cette maison était comme un signe de la présence et de la faveur de Dieu envers son peuple. Cette maison devait être une maison de prière où tout Israël, le peuple d'Israël, viendrait se réjouir devant Dieu, viendrait célébrer, viendrait festoyer le nom de Dieu et les grâces de Dieu et célébrer cette relation d'amour qu'il y avait entre Dieu et Israël. Une maison de prière où tous pourraient venir se réconcilier avec Dieu. Se repentir de ses péchés, prier Dieu. Même une maison où les étrangers, les païens, les non-juifs pourraient venir pour connaître Dieu et adorer Dieu à leur tour. En fin de compte, une maison pour être en relation avec Dieu. Prier Dieu, s'adresser à Dieu, c'est entrer en relation avec lui. Voilà ce à quoi devait servir cette maison, ce temple. Dieu qui est souverain, qui connaît le cœur des hommes, qui connaît l'histoire des hommes, dès les temps anciens, avait annoncé que le peuple ne serait pas fidèle. Mais comme une épouse infidèle, le peuple retournerait vers les idoles, vers les péchés des autres peuples, vers une vie ancienne. Et qu'en fin de compte, ce peuple-là ne se distinguerait pas vraiment des nations environnantes. Et Dieu a alors annoncé à plusieurs reprises par la bouche de ses prophètes qu'il viendrait un temps où il se donnerait un peuple nouveau, composé de juifs et de non-juifs, mais un peuple avec un cœur nouveau, un peuple avec un cœur pour Dieu. Pendant des siècles, Dieu a envoyé ses prophètes pour mettre en garde et annoncer que les temps approchaient, les temps venaient, où Dieu ne laisserait pas cette infidélité continuer, son nom être souillé par un peuple qui ne voulait pas porter dignement le nom de Dieu, mais qui avait un cœur partagé avec d'autres amours. Je vous lis un passage tiré du prophète Ézéchiel dans l'Ancien Testament. Si vous n'êtes pas familier avec les Saintes Écritures, Dieu parle à son peuple à travers les prophètes. Et nous avons dans l'Ancien Testament un grand nombre de prophéties où nous entendons le cœur de Dieu, nous entendons les pensées de Dieu, mais Dieu nous annonce aussi ce qui s'en vient. Dans le livre d'Ézéchiel, un prophète de l'Ancien Testament, on lit dans Ézéchiel 36. Je vous lis quelques versets brièvement. Dieu parle et annonce qu'un jour viendrait où il dit « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Ainsi, au moment où Jésus vient, les temps sont accomplis. Les mises en garde, les prophéties, les promesses annoncées depuis des siècles sont accomplies lorsque Jésus arrive. Jésus-Christ vient pour s'offrir en sacrifice, nous l'avons chanté tout à l'heure. Il vient pour s'offrir en sacrifice sur la croix. Lorsqu'on arrive dans Matthieu 21, nous sommes à quelques jours de la crucifixion. Et c'est par ce sacrifice, par la foi dans son sacrifice, qu'il est possible de recevoir ce cœur nouveau. Dans Matthieu 21, quelques jours avant l'arrestation et la crucifixion de Jésus, en sortant du temple, Jésus fait un miracle, vous l'avouerez, assez bizarre, assez étrange. Il s'avance vers cet arbre, lui qui connaissait le cœur des hommes, qui savait très bien ce qu'il allait rencontrer. Il s'avance vers cet arbre parce qu'il a faim. Il était prêt à manger une figue qui n'était pas mûre, une figue amère parce qu'il avait faim. Mais cet arbre n'avait pas de fruits. Et Jésus vient poser ce miracle, ce geste étrange et bizarre devant ses disciples. Pourquoi est-ce qu'il fait cela? Qu'est-ce que cela représente? Est-ce que Jésus est simplement en train d'apporter une leçon sur la prière? Parce qu'il va prendre l'occasion pour enseigner sur la prière. Est-ce que Jésus est simplement en train d'enseigner une leçon sur la prière? Je ne pense pas. Il y a un contexte à ce geste-là qui est posé. En chassant les vendeurs du temple, Jésus vient de prononcer un jugement sur le temple, ou plutôt sur la manière dont on utilisait le temple. Et quelques chapitres plus loin, dans Matthieu 24, Jésus va aller jusqu'à annoncer la destruction prochaine du temple. Si le jugement commence à être annoncé lorsqu'il chasse les vendeurs du temple, vous comprenez qu'en chassant les vendeurs du temple, il pose un jugement sur ce qu'on fait dans ce temple-là qui devait être une maison de prière. Il s'oppose aux autorités en place et leur dit « Ce que vous faites là est scandaleux! » Maintenant, si le jugement est encore en germe ici, dans Matthieu 24, il va carrément annoncer que le temple sera détruit prochainement. Et en sortant du temple, Jésus vient vers ce figuier et il le maudit parce qu'il ne porte pas de fruits. Maintenant, si on allait lire le passage parallèle dans l'évangile de Marc, et si vous n'êtes pas familier avec les Saintes Écritures, nous avons 4 évangiles, et souvent il y a des passages qui racontent le même récit. Mais ces 4 évangélistes nous donnent des perspectives différentes, nous aident à saisir des nuances dans ce qui était en train de se passer. Si nous allions lire le passage parallèle dans l'évangile de Marc, la relation entre le geste qu'il pose sur le figuier et le jugement qu'il vient de poser sur le temple serait plus évidente encore. C'est plus frappant dans l'évangile de Marc. Et pourtant, je pense que c'est ça que Matthieu est en train de souligner encore une fois. Parce que lorsqu'on continue à lire le passage, si vous regardez le verset 23, vous êtes avec moi dans Matthieu 21, verset 23, Jésus retourne au temple et il va continuer à être en contestation. Il va continuer à être en contestation avec les autorités. Ils vont essayer de le piéger, mais il va les contester. Il va les confondre avec des paraboles et des images très, très puissantes. Des jugements vraiment arrêtés, on va les voir ensemble au cours du mois de janvier. Mais regardez le verset 42 dans Matthieu 21. Jésus leur raconte une histoire pour les aider à saisir comment ils se comportent à l'égard du Messie, à l'égard du Sauveur. Et on lit à la fin, Jésus reprend lui-même, il va commenter l'histoire qu'il vient de raconter. Il dit, au verset 42, Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle? » Les bâtisseurs, c'étaient les chefs religieux. C'est eux qui bâtissaient, c'est eux qui parlaient au nom de Dieu. C'est eux qui enseignaient comment on adore Dieu. Mais ceux-ci ont rejeté Christ. Alors Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, celle sur laquelle on va orienter toute la construction de l'édifice? C'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. » Écoutez bien les prochaines paroles. « C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. » Qui en rendra les fruits? Ainsi, par ce miracle étrange avec le figuier, Jésus pose un jugement sur les fruits qu'Israël ne porte pas. Et sur l'institution qui est devenue le temple et les chefs religieux et Israël en général. Cet arbre qu'est Israël ne porte pas les fruits attendus. Et je ne suis pas en train de dire ici que Dieu pose un jugement sur tous les Juifs et que Dieu aurait rejeté entièrement tous les Juifs. Il faut quand même se rappeler que les disciples de Jésus à ce moment-là sont des Juifs. Et un grand nombre de Juifs vont croire en lui après sa résurrection. Mais il y a un jugement général. Parce que ce peuple a tout reçu de Dieu. C'est le peuple qui a reçu la loi de Dieu, qui a reçu les promesses de Dieu, qui a vu les miracles lorsqu'ils sont sortis d'Égypte et combien de fois encore après, qui a reçu le temple. Ce peuple qui a tout reçu de Dieu ne donne pas les fruits que Dieu voulait de lui et Jésus vient pour le remplacer. C'est inquiétant. C'est troublant. C'est troublant de voir ce moment dans l'histoire d'Israël. Et encore aujourd'hui, les Juifs errent, s'accrochant à l'Ancien Testament, ne saisissant pas qui est intervenu dans leur histoire. Quel drame! Quel drame d'avoir attendu pendant des siècles un Messie et de passer à côté lorsqu'il vient. Quel drame! Et Jésus vient pour annoncer qu'un autre peuple sera formé, de juifs et de non-juifs. C'est inquiétant, c'est troublant. Et je pense qu'il y a une mise en garde ici pour nous dans le passage. Quand Matthieu écrit ces lignes, il n'est pas en train de parler aux juifs. Il est en train d'instruire l'Église. En fait, je sais qu'il y a ici une mise en garde pour nous dans ce passage. Cette semaine, j'étais en train de méditer le passage, j'étais en train de prier, et lorsque je termine mon analyse, mon exégèse du texte, puis que j'ai trouvé les liens, puis les relations, puis les citations, les allusions dans l'Ancien Testament, à un certain moment donné, je dépose tout, puis je m'en vais dans la prière, et je commence à chercher la face de Dieu, et je dis, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire à moi? » Pas à l'Église, pas à l'Église de l'espoir, pas aux non-croyants qui seront là dimanche prochain. Qu'est-ce que tu veux dire à Yannick Étier? Parce que si tu n'as rien à me dire à moi, j'ai rien à dire à ton peuple. Viens bouleverser mon cœur premièrement, Seigneur. Qu'est-ce que tu veux me dire à moi? Quel est ton message pour moi personnellement? Et je ne pouvais faire autrement que de m'examiner, d'examiner les fruits dans ma vie. D'aller dans la prière et dire, Seigneur, est-ce que ce figuier porte du fruit? Cette mise en garde tient pour l'Église de Jésus-Christ. L'apôtre Paul nous avertit de faire bien attention dans sa lettre qu'il a écrite à l'Église qui était à Rome. Et je vais vous lire un passage dans Romains 11, si vous voulez tourner avec moi, Romains 11, 17. Simplement pour illustrer le fait que c'est une mise en garde qui nous est donnée à nous ici aussi. Non seulement Matthieu nous informe du but de la venue de Jésus, mais il nous exhorte par ce passage. Et l'apôtre Paul reprend plus explicitement la même idée dans Romains 11, 17. Paul va parler ici de l'olivier sauvage. Ce sont les non-juifs qui ont cru en Jésus. L'olivier sauvage qui a été greffé à l'olivier de Dieu. Et voici ce qu'il dit au verset 17. « Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées par l'un des juifs, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. » Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je sois greffé. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité et toi, tu subsistes par la foi. Écoutez la mise en garde. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Et on pourrait tourner dans l'Apocalypse, aller lire les mises en garde qui sont adressées aux églises dans le livre de l'Apocalypse et plusieurs autres passages à travers tout le Nouveau Testament où il y a cette mise en garde qui revient, qui nous exhorte, qui nous pousse à aller examiner notre cœur. Il faut entendre ce que Dieu est en train de dire ici. Non seulement il nous parle de ce moment dans l'histoire de l'humanité où Jésus-Christ est venu juger un arbre qui ne portait pas de fruits, mais Matthieu nous exhorte ici à examiner nos propres vies. Et il nous faut entendre ce que Dieu dit ici, examiner nos voies, examiner nos vies et chercher les fruits dans nos vies. Voyez-vous, nous portons le nom de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Ne sommes-nous pas de petits Christ, des chrétiens? Nous portons le nom de Jésus-Christ. Nous devons lui ressembler. Nous devons ressembler à cet homme marginal qui se donnait corps et âme, littéralement. Nous devons ressembler à cet homme qui faisait fi de sa personne pour être généreux, pour se donner constamment. Nous devons ressembler à cet homme qui acceptait les opprobres, la critique, les injures et qui pardonnait en retour. Nous devons ressembler à cet homme qui aimait ses ennemis. Nous devons ressembler à cet homme qui s'en remettait entièrement à son Père, quelles que soient les circonstances. Nous devons ressembler à cet homme qui ne vivait pas pour se bâtir un royaume ici-bas sur la terre, mais qui vivait pour le royaume qu'il y a dans les cieux. Si nous portons le nom de Jésus-Christ, si nous sommes cette branche, cet olivier sauvage qui a été greffé à l'olivier de Dieu, si nous portons le nom de Jésus-Christ, nous devons lui ressembler. Est-ce que ta vie chrétienne porte des fruits? Est-ce que Jésus, en s'approchant du figuier, sera heureux d'y cueillir une figue? Est-ce qu'il trouve cette adoration dans ta vie qui fait tellement de joie dans le cœur de Dieu? Ou est-ce qu'il y a actuellement dans ta vie des choses qui t'empêchent de porter des fruits? Vous savez, nous sommes tous pécheurs. Et comme je vous l'ai dit, ce que je vous sers, je me le sers premièrement. Mais si l'Esprit de Dieu te parle ce matin et te montre qu'il y a des choses dans ta vie qui t'empêchent de porter du fruit, peut-être qu'il veut émonder l'arbre pour qu'il porte plus de fruits. Est-ce qu'il y a des choses dans ta vie que le Saint-Esprit te montre actuellement qui t'empêchent de porter du fruit? Est-ce que tu es prêt à venir les déposer, les abandonner, te repentir de tes péchés? Confesser de ta bouche, « Seigneur, il y a ceci ou cela ou cette personne ou cette chose qui est une passion dans ma vie et qui m'empêche de porter du fruit pour le royaume, Seigneur. Et je suis prêt à y renoncer parce que j'ai été consacré à Christ. » Parce que tu as saisi mon cœur, tu m'as conduit au désert et tu m'as dit ton amour et tu m'as dit ton sacrifice pour moi et je t'appartiens aujourd'hui. Je suis ton amour et tu es mon amour, Seigneur. Mais depuis quelque temps, quelque chose d'autre est venu distraire mon regard. Je n'ai plus un cœur d'amoureux pour toi. Mon regard va ailleurs, sur ceci ou sur cela, sur des ambitions, des passions, des péchés, qui sont devenus des idoles, un autre amour dans ma vie, qui empêche cet amour entre toi et moi de porter tous les fruits qu'il devrait porter. Et ce qui est beau avec le Seigneur, c'est qu'il est fidèle lorsque nous sommes infidèles. Et tout ce qu'il attend de nous, c'est un cœur repentant, comme une épouse, un époux infidèle qui dit, « Je te demande pardon. J'ai été infidèle, Seigneur. J'ai détourné les regards de toi. Mon cœur battait pour quelqu'un d'autre. Pardonne-moi. Lave-moi encore une fois par ton sang, Jésus. Parce que je veux porter les fruits de cet amour pour toi, Seigneur. » Est-ce que tu es prêt à le faire ce matin? Est-ce que l'Esprit de Dieu te parle ce matin? Dans ton cœur, es-tu prêt à dire maintenant au Seigneur, « Je te remets ça, Seigneur, c'est à toi. Parce que je veux revenir à mon premier amour, Seigneur Jésus. Je veux que tu trouves des fruits sur ce figuier, Seigneur. » Et ce qui est beau dans l'Évangile de Matthieu, souvent, c'est que lorsque Dieu annonce des jugements, lorsque Jésus intervient avec sévérité, souvent dans l'Évangile de Matthieu, il y a un thème qui revient où Dieu va donner des promesses aussi grandes que les jugements annoncés. Et voyez-vous, dans ce passage, il y a ce jugement sur le figuier, mais l'histoire ne s'arrête pas là, l'histoire se poursuit. Le passage nous parle ensuite de la prière. Et si on lit rapidement le passage, la relation entre le fait que Jésus va chasser les vendeurs du temple, qu'il pose un jugement sur le figuier, et ensuite de ça, qu'il va donner un enseignement et des promesses tellement grandes sur la prière, la relation peut comme passer inaperçue. Et pourtant, il y a un lien très important qui est rempli de promesses merveilleuses et d'encouragement pour nous, frères et sœurs, pour l'Église et pour les disciples de Jésus. Jésus est venu poser un jugement sur le temple, rappelez-vous, qui devait être une maison de prière. Ce temple-là devait être une maison de prière. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il enseigne ses disciples sur la prière. Voyez-vous, lorsque Jésus est venu prononcer son jugement, le jugement de Dieu, Dieu n'avait pas renoncé à son projet. Bien au contraire, il juge le temple en tant que maison de prière, mais il va se bâtir une nouvelle maison de prière qui ne sera pas faite de briques, de ciment, de pierre, mais une maison spirituelle, bâtie avec des pierres vivantes. Dans 1 Pierre 2, voici comment l'apôtre Pierre résume ça. Écoutez bien. Il s'adresse à l'Église, il s'adresse à vous et moi, à tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Et Pierre dit, « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même comme des pierres vivantes. » Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Voyez-vous, si Dieu renonce à cet édifice qui était le temple, il ne renonce pas à se construire une maison. Une maison spirituelle composée de personnes qui ont cru en Jésus-Christ. Cette maison spirituelle devient à son tour une maison de prière. Jésus-Christ nous a ouvert l'accès à Dieu le Père. Plus besoin de temple, plus besoin de prêtres, plus besoin d'offrir de sacrifices d'animaux. Tout est parfaitement accompli en Jésus-Christ et nous avons accès à Dieu. Constamment pour venir intercéder, nous réjouir, réjouir notre cœur devant Dieu dans sa présence. Et ce qu'il nous reste à faire à présent, c'est de commencer à prier. Commencer à prier vraiment. Et comme si Jésus savait que les disciples seraient remplis de doutes, il leur donne à plusieurs reprises à travers l'Évangile de Matthieu des promesses assez extraordinaires sur la prière. On pourrait en citer plusieurs ce matin. Vous voyez, les disciples étaient des hommes et des femmes tout simples, comme vous et moi. Ils n'étaient pas des prêtres, vêtus dans des vêtements d'apparat, des vêtements spéciaux, qui pratiquent des rituels spéciaux pour pouvoir s'approcher de Dieu. Ils avaient des raisons de douter que leur prière serait comme ça, admise dans la présence de Dieu. Mais bientôt, il n'y aurait plus de temple et les chrétiens se cacheraient un peu partout pour aller prier Dieu. Toute place serait bonne pour s'approcher de Dieu. Parfois en cachette, parfois dans de vieux bâtiments comme ici. Est-ce que Dieu entend nos prières, frères et sœurs? Lorsque vous vous retirez deux ou trois pour prier ensemble et que vous adressez des prières à Dieu, est-ce que Dieu les reçoit vraiment comme lorsque le souverain sacrificateur, une fois par année, entrait dans le lieu très saint et s'approchait de Dieu? Est-ce que Dieu entend nos prières comme ça? Est-ce qu'il veut répondre à nos prières comme ça? Vous savez, s'il y a un domaine où je n'ai pas la prétention d'être un grand maître ou un grand exemple, c'est dans ce domaine-là que j'ai encore tellement de choses à apprendre sur la prière. Quand je m'avance dans la prière, j'ai l'impression d'être un petit enfant qui vient apprendre et encore à l'école de la prière. Mais plus les années de ma vie chrétienne avancent et plus cette conviction grandit profondément dans mon cœur, de plus en plus, Dieu m'apprend à m'arrêter avant d'agir pour aller dans la prière. Parce que de plus en plus, j'ai cette conviction que Dieu répond à la prière. Et cette semaine encore, Dieu m'a émerveillé à plusieurs reprises en répondant à mes prières. Parfois de manière assez fantastique, où tu dis, ça peut juste être Dieu. D'autres fois de manière plus simple. Mais plus j'avance dans la vie chrétienne, et plus j'apprends à ne pas passer à l'action avant d'être allé dans la prière pour adresser mes requêtes au Seigneur. Alors Jésus prononce cette promesse absolument extraordinaire ici, et il dit « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Il est venu juger un arbre, une nation qui ne donnait pas les fruits que Dieu voulait. Il voulait que son temple soit une maison de prière, et il nous enseigne sur la prière. Est-ce que nous allons le suivre, frères et sœurs? Est-ce que nous allons devenir cette maison de prière? Allons-nous porter ces fruits que Dieu recherche? Est-ce que tu es prêt à t'avancer par la foi pour devenir un homme et une femme de prière qui croit que son Dieu lui a ouvert accès entièrement dans la présence du Dieu très saint, qui se plaît à écouter ses requêtes et qui se plaît à répondre à ses requêtes? J'ai commencé cette prédication, ce message, en vous citant Jean 15, 7. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Dieu associe intimement la prière, la réponse aux prières et sa propre gloire. Dieu associe souverainement dans ses desseins à lui, dans ses projets à lui, les prières de son peuple, les réponses aux prières de son peuple et la gloire de son nom. Jésus ne dit pas ici que nous pouvons demander absolument n'importe quoi. Je vous cite Jacques 4, 3. Jacques nous dit « Vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Ça nous dit qu'on a quand même un bout de chemin à faire pour apprendre à devenir des hommes et des femmes de prière. Ça nous dit que Dieu va nous dévoiler notre cœur et qu'il va nous révéler parfois des passions qui font que ces prières ne sont pas selon Dieu. Dans le Notre Père, Jésus nous enseigne à prier et il dit « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » « Non ma volonté, Père, mais ta volonté, dit Jésus dans le jardin de Gethsémané. » Alors, il faut apprendre à prier. Il faut encore apprendre à prier, apprendre à chercher la gloire de Dieu en toutes choses, apprendre que parfois la réponse aux prières va impliquer beaucoup de souffrance pour nous. Apprendre que nos requêtes, des fois, ne sont pas les bonnes et que Dieu va venir les sanctifier, venir les travailler parce qu'il y a trop de moi dans cette requête et pas assez de lui encore. apprendre à se soumettre entièrement à la volonté de Dieu. Mais il y a cette promesse incroyable dans le passage ici qui nous parle du cœur de Dieu qui veut exaucer nos prières. Dieu veut faire de nous une maison de prière et il nous faut grandir dans notre foi en Dieu. Parfois, Dieu répondra de manière extraordinaire, spectaculaire. Vous avez des histoires comme ça dans vos propres vies, de requêtes que vous avez faites extraordinaires, vraiment qui relèvent d'un surnaturel incroyable. Parfois, Dieu répondra tranquillement, lentement, travaillant en profondeur nos cœurs, travaillant notre patience, notre endurance, notre foi. Permettez-moi de faire une application ce matin en illustrant que parfois Dieu va répondre de manière fantastique et spectaculaire, parfois il va répondre tranquillement, parce qu'il fait un travail en profondeur, et dans les deux cas, la prière est selon Dieu, selon la volonté de Dieu. La majorité d'entre vous savez qu'Hugo, mon frère, est en train de travailler à l'implantation d'une église à Rivière-du-Loup avec une poignée de personnes. Maintenant, ils sont rendus peut-être entre 50 et 60 avec les enfants, et ça fait déjà 3 ans, je crois, qu'ils sont là. 50-60, ça veut dire que le centre culturel qu'ils sont en train de louer n'est plus assez grand. Et nous y allons. À chaque fois que nous allons à Rivière-du-Loup, j'ai prêché là régulièrement. C'est intéressant pour l'évangélisation parce qu'il y a des gens qui rentrent dans le centre culturel pour aller aux toilettes pendant que tu prêches. Mais il y a quand même des limites d'espace. Alors, il y a un défi financier parce que maintenant, ils sont en train de regarder à l'achat d'un bâtiment pour avoir de la place pour 150-200 personnes, passer à une prochaine étape. Donc, l'église de Rivière-du-Loup est dans la prière et demande à Dieu de venir faire un miracle. Et ils examinent leur cœur, ce que Dieu attend d'eux, mais ils sont dans la prière. De notre côté, la semaine dernière, on a partagé, pour faire une application très concrète, une belle requête de prière. Un beau projet, n'est-ce pas? Par la grâce de Dieu, inviter les Marquis à rester avec nous pour servir de manière permanente sur l'équipe ici. Et venir se consacrer à l'évangélisation, à faire avancer ça ici avec nous. Et on est en train de prier, mais il y a un défi. On est comme fatigué, usé comme église de se demander à chaque année si on va avoir un déficit, pas de déficit, on va arriver juste. On voudrait se tourner vers l'avenir et avoir des projets d'avenir. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va dans la prière, comme l'église de Rivière-du-Loup. L'église de Rivière-du-Loup est dans la prière et l'église de l'espoir est dans la prière. Parfois, Dieu répond de manière extraordinaire. Parfois, Dieu répond lentement parce qu'il travaille en profondeur. Il y a 10 jours, mon frère Hugo avait partagé des choses, des terrains qu'ils sont en train de regarder avec quelqu'un qui est responsable à la mission. Un simple courriel qu'il a envoyé le matin pour donner quelques nouvelles. Des possibilités qu'ils sont en train de regarder puis demander à M. Dobson de continuer à prier sur tout ça. Il a envoyé son courriel à 7h. À 9h, il a reçu un coup de téléphone de Dave Dobson. Puis Dave a parlé pendant une demi-heure avec Hugo de tout et de rien, prenant des nouvelles de l'église, tout ça. Puis ceux qui sont déjà allés là-bas, Hugo était au sous-sol, près de son poêle à bois, en train de faire son culte personnel. Et puis après une demi-heure de discussion, Dave a dit à Hugo, « Est-ce que tu es debout? Assis-toi, mon frère. » Donc, Hugo s'est assis, se demandant qu'est-ce qui s'en venait. Et Dave lui a annoncé, 2 heures après qu'Hugo ait envoyé le courriel, qu'un couple avait eu à cœur de donner 100 000 $ pour l'achat d'un bâtiment pour l'église de Rivière-du-Loup. Incroyable, hein? Vous pouvez imaginer qu'Hugo s'est mis à genoux puis il s'est mis à pleurer. Et Dave et lui étaient en train de louer le Seigneur au bout du fil. Parfois, Dieu répond de manière extraordinaire. Nous sommes dans la prière ici. Nous prions pour que Dieu vienne bénir cette assemblée dans nos défis financiers qui sont devant nous, dans nos défis pour aller vers l'avant aussi. Et vous savez quoi? Dieu va répondre. Je peux vous assurer que Dieu va répondre. J'ai cette confiance et cette paix en Dieu, même si on est comme dans le brouillard. Mais ma conviction à moi, c'est que Dieu va travailler en profondeur ici. Parce que depuis quelques semaines, j'entends des histoires de repentance. J'entends des histoires de cœurs bouleversés que Dieu est en train de travailler. Et Dieu va répondre à cette requête. de manière extraordinaire en transformant nos cœurs et nos vies. Mais Dieu va répondre à cette requête. Frères et sœurs, voilà près de 2000 ans, le Fils de Dieu est venu pour juger un arbre qui ne portait pas les fruits que Dieu voulait. Il s'est approché vers cet arbre et le cœur déçu, il l'a maudit. Mais Dieu n'avait pas renoncé à son projet. Au contraire, il s'en venait fonder une maison spirituelle qui ne serait pas dans un endroit ou dans un autre, mais par toute la terre, mobile, efficace, pour proclamer le nom de Dieu partout. Une maison spirituelle faite de gens transformés, mais une maison de prière qui croit en son Dieu, qui porte le nom de Jésus-Christ, qui proclame le nom de Jésus-Christ et qui apporte des prières à son Dieu. Avec la ferme conviction que Dieu veut bénir son peuple. Parfois, Dieu répond de manière extraordinaire. Parfois, Dieu travaille en profondeur et lentement. Est-ce qu'on est prêt à s'avancer ensemble et être ce peuple de Dieu, choisi de Dieu, disposé à porter des fruits? Ça va nous demander d'examiner nos vies, de voir si l'arbre, le figuier, porte des fruits. Ça va nous demander de nous repentir, de dire au Seigneur que nous avons détourné les regards, nous avons cessé de croire. Et ça va nous demander de nous engager à devenir, nous, cette maison de prière pour la gloire de Dieu. On va prier le Seigneur ensemble. Seigneur Jésus, si je suis aujourd'hui ici et si nous sommes assemblés, c'est à cause de ta grâce. Parce qu'un jour, Seigneur, tu as décidé d'ouvrir les portes toutes grandes, comme jamais avant, à toutes les nations de la terre, et que tu as quitté cette terre en envoyant ses disciples, leur donnant une mission. Allez et faites de toutes les nations de la terre mes disciples. Seigneur Jésus, cette maison qui est ici l'Église de l'Espoir, cette Église locale, a été choisie, élue par toi. Tu as conquis nos cœurs, tu nous as dit ton amour, Seigneur. Mais Seigneur, redis-nous encore combien tu nous aimes. Montre-nous là où tu veux émonder nos vies. Donne-nous le courage de venir rejeter ces idoles, rejeter ces péchés, et accorde-nous la foi de devenir cette maison de prière, Seigneur. Et par ta grâce, nous verrons des miracles s'accomplir au milieu de nous. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Levez-vous, s'il vous plaît. On va...